Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
C'est la saison de Noël, la saison où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, la naissance d'un Sauveur.
Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le sens d'un extrait de l'Évangile de Matthieu. Cet extrait concerne un homme qui s'est trouvé confronté à un grand dilemme. Il s'appelle Joseph.
Dans un premier temps, Sandra nous lira, dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, les versets 18 à 25. Ensuite, André nous rejoindra sur le plateau. Il nous aidera à mieux comprendre toute la portée et l'importance de ce récit. Cédons la parole à Sandra.
Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Merci Sandra et bonjour André. Bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Joseph se trouvait devant un grand dilemme. Il était promis en mariage à une jeune fille qu'il croyait pieuse et de bonne réputation, et voilà qu'elle tombe enceinte. De surcroît, elle affirme que cette grossesse n'est pas le fruit d'un quelconque acte immoral, mais de l'action de l'Esprit-Saint. Qui croirait une affirmation pareille? Joseph est donc perplexe, contrarié et troublé. Avec tristesse, il décide qu'il faudra probablement discrètement rompre ses fiançailles, mais il hésite encore à faire ce pas. C'est alors qu'un ange apparaît pour lui parler. Dieu est bon. Il comprend le dilemme et la détresse de Joseph, et il comprend que cette situation extraordinaire nécessite un message venu du ciel. Dieu donc envoie un ange en porte-parole, et celui-ci confirme que Marie a dit vrai. L'embryon qui grandit dans son ventre y a été placé par l'intervention miraculeuse de l'Esprit-Saint. Marie n'a rien fait de mal, au contraire, elle a fait preuve d'une grande foi pour accepter de porter cet enfant, sachant que tous la regarderaient avec méfiance ou mépris. Cependant, grâce au message de l'ange, Joseph la croit. Il a compassion d'elle. Il protégera son honneur et se mariera avec elle et élèvera l'enfant qu'elle porte comme le sien.
Merci André. Toutefois, l'ange n'est pas seulement apparu pour rassurer Joseph, mais aussi pour le charger d'une tâche importante. L'ange a révélé à Joseph quel nom il devait donner au bébé que Marie portait, et aussi pourquoi il devait lui donner ce nom.
Oui, apparemment à cette époque-là, c'était au mari de choisir le nom de tout enfant né dans le foyer familial. Mais dans ces circonstances extraordinaires, c'est l'ange qui a révélé quel nom donner.
Donc, Jésus est le nom donné au bébé qui allait naître. Quelle est la signification de ce nom?
Ce nom signifie simplement « Dieu sauve » ou « Dieu est le Sauveur ». Autrement dit, le bébé que Marie portait était en réalité Dieu en personne, Dieu devenu homme pour apporter son salut. Cette notion qui dépasse l'imagination est confirmée dans la suite du récit. Matthieu cite un prophète de l'Ancien Testament, en l'occurrence le prophète Ésaïe. Celui-ci a annoncé d'avance l'arrivée d'un bébé qui sera connu comme Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Selon Matthieu, la naissance miraculeuse de Jésus est l'accomplissement d'une parole prophétique qui se trouve en Ésaïe chapitre 8. La jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Marie était une jeune fille vierge et pourtant, par la puissance de l'Esprit, elle est enceinte et elle enfantera un fils. Donc, pour Matthieu, ce fils est bel et bien Emmanuel, Dieu avec nous en personne. Dieu avec nous, revêtu d'humanité. Quel mystère! Mais pourquoi Dieu se revêt-il d'humanité? C'est pour devenir notre sauveur.
Et je pense que le peuple d'Israël attendait un sauveur, et depuis bien longtemps.
Il est vrai que ce peuple attendait un sauveur, mais Jésus n'allait pas forcément répondre aux attentes de ce peuple. Le salut qu'il allait apporter ne correspondrait pas forcément aux espoirs des Juifs.
Pourquoi?
Souvenez-vous du contexte du peuple d'Israël. À cette époque-là, ce peuple était soumis à l'Empire romain. La nation d'Israël n'avait ni indépendance ni autonomie. Tous les chefs religieux et politiques devaient rendre compte au gouverneur romain et se soumettre à sa politique. De surcroît, les impôts exigés par l'État romain pesaient lourdement sur le peuple, et tout signe d'insoumission ou tentative d'insurrection était violemment réprimé par l'armée romaine. Oui, le peuple d'Israël désirait que Dieu vienne en sauveur pour le libérer du joug politique et militaire qu'imposait l'État romain. Le peuple voulait un sauveur qui lui redonnerait son autonomie et sa fierté, qui rétablirait la gloire d'Israël en tant que nation indépendante, puissante et prospère. Nous savons en lisant les évangiles et les sources historiques que Jésus n'a jamais libéré le peuple d'Israël de l'occupation et de l'oppression romaine. Il n'a même pas essayé. Et en fait, le récit lu en début d'émission nous révèle que cela n'a jamais été son intention.
Et en quoi le récit trouvé en Matthieu chapitre 1 nous permet-il de comprendre que Jésus n'est pas venu en sauveur politique ou militaire?
L'ange demande à Joseph de donner au fils de Marie le nom de Jésus. Puis l'ange apporte la précision suivante, je le cite, « C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés ». Voyez-vous, Jésus n'est pas venu pour mener une campagne militaire. Il n'est pas venu pour chasser les Romains de son pays. Non, il est venu pour régler un tout autre problème. Un problème qui, à ses yeux, était encore plus grave que l'oppression romaine. Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés.
Merci André. Cette affirmation suscite de nombreuses questions. Notamment, qu'est-ce que le péché? Et ensuite, pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés de nos péchés? Et enfin, en quoi consiste le salut de nos péchés?
Ce sont effectivement des questions très importantes et nous y reviendrons tout à l'heure. Car avant de vous donner les réponses, je voudrais poser une question à nos amis auditeurs.
Je vous en prie.
Mes amis, qu'attendez-vous de Jésus? Tout comme le peuple juif, nous pouvons espérer que Jésus agisse en sauveur pour régler tous nos problèmes. Mais souvent, nous passons à côté du problème le plus grave et nous ne nous préoccupons pas de nos péchés. Mes amis, nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des épreuves très graves et douloureuses. Certains d'entre vous vivent dans l'insécurité, subissent les injustices ou la violence. Vous voulez que Jésus vienne en libérateur pour apporter la paix et la sécurité. Beaucoup d'entre vous sont pauvres et vous souhaitez que Jésus vous donne la prospérité. Beaucoup sont malades et aimeraient que Jésus les guérisse. Vous pouvez vous demander pourquoi Jésus n'agit pas en sauveur selon vos attentes et vos aspirations. Mes amis, Jésus n'est pas indifférent à vos épreuves. Toutefois, il agit d'abord et surtout pour vous sauver de vos péchés. Je voudrais à présent donner une illustration pour aider nos amis à mieux comprendre ces propos.
Merci, je pense que ce sera fort utile.
Imaginez un homme qui, en travaillant dans son atelier, a un petit accident à la suite duquel il a très mal aux côtes. La douleur ne cesse de grandir et il soupçonne qu'il a quelques os brisés. Il décide d'aller à l'hôpital et le médecin de service l'envoie faire une radiographie. Après quelques heures d'attente, le médecin lui demande d'entrer dans son cabinet. Il a le visage très sérieux. Il a une mauvaise nouvelle à annoncer au monsieur. La radiographie a révélé qu'effectivement il a deux côtes brisées, ce qui explique tant de douleurs. Toutefois, le médecin doit lui annoncer une nouvelle plus grave encore. La radiographie a aussi révélé la présence de grosseurs dans les poumons. Il s'agit probablement d'un cancer qui s'est développé silencieusement à l'insu de monsieur. Certes, le médecin n'est pas indifférent aux douleurs causées par les côtes cassées, mais dès lors qu'il découvre un cancer, il va surtout se préoccuper de trouver un traitement pour remédier à cette maladie tant redoutée, car elle est potentiellement mortelle. Voyez-vous, les épreuves de la vie sont certes souvent très graves et douloureuses, mais selon la Bible, tous nous avons une nature pécheresse, et cette nature représente un danger encore plus grave. Tout comme un cancer peut prendre doucement de l'ampleur, sans que nous nous en rendions compte, nous pouvons être tout aussi inconscients du péché qui règne dans nos cœurs et des conséquences qu'il engendre. Le péché est un problème réel et mortel. Nous avons besoin d'être sauvés de notre péché. Mais la bonne nouvelle que nous annonçons à l'occasion de Noël et tout au long de l'année est celle-ci. Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Il ne peut y avoir de plus grand cadeau de Noël.
Merci André pour cette leçon importante. Pouvez-vous alors nous expliquer pourquoi le péché est si dangereux et en quoi Jésus nous sauve de nos péchés?
Notre nature pécheresse nous expose à la condamnation de Dieu. Les fautes que nous commettons ont des conséquences graves. Nos fautes sont déjà la cause d'ennuis et de relations brisées qui rendent nos vies malheureuses. Elles nous séparent également de Dieu et elles nous destinent à la mort, le châtiment éternel que certains nomment l'enfer. Jésus nous sauve d'un tel destin et nous réconcilie avec notre Père céleste. En mourant sur la croix, Jésus a subi à notre place la peine pour nos péchés. Du coup, nos péchés sont pardonnés, et nous pouvons renouer une relation personnelle et joyeuse avec Dieu le Père. De plus, nous sommes sauvés de l'enfer pour devenir les héritiers de la résurrection à une vie nouvelle et éternelle vécue dans la présence de Dieu. Ce salut est l'expression parfaite de la compassion, de l'amour et de la grâce de Dieu. Il aurait été en son droit de nous abandonner aux justes conséquences de nos péchés, mais il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'appelle Jésus, Dieu le Sauveur, et son salut, il nous l'offre comme un cadeau. Il s'agit d'un cadeau avec de nombreuses facettes qui scintillent comme un diamant, mais ce cadeau précieux vise à résoudre le problème fondamental auquel nous sommes tous confrontés, celui du péché.
Merci André pour vos rappels sur le véritable sens de Noël. Nous vous encourageons à vous tourner vers Jésus pour trouver en lui le salut et le pardon de vos péchés.
De la part de toute l'équipe d'Espérance aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux Noël. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.